Bonjour, vous êtes en compagnie de François Nardou, de Moncuq, et aujourd'hui nous allons aborder en ce mois de décembre un sujet qui me tient à cœur, celui de la période des Avents, les quatre semaines avant Noël, et des proverbes, mythes, traditions, coutumes qui se rattachent à cette période, avant ensuite d'aborder celle de Noël. Noël en décembre, c'est une vérité d'évidence. Mais ça n'avait aucune détermination historique. Noël aurait aussi bien pu être célébré en juin. Noël, qui est la fête qui célèbre la naissance du Christ, dans l'Église primitive, n'avait pas de célébration. L'Église d'Égypte, l'Église copte, l'a longtemps célébrée au mois de juin, à une période qui correspondait du reste à la crue du Nil. En Palestine, on est sûr que ce que nous racontent les évangiles quant à la présence de bergers à Bethléem n'a pu se produire qu'entre mars et septembre-octobre. Pendant l'hiver, les troupeaux restaient à l'étable. Ce qui fait dire aux historiens contemporains que la naissance de Jésus à Bethléem a dû se produire, disons en gros, entre juin et septembre. Mais dans nos pays, depuis le IVe siècle de notre ère, dans le cadre de l'Empire romain constantinien, l'évêque de Rome de l'époque a fixé la date de la célébration, de la commémoration de la naissance du Christ au 25 décembre, pour des raisons connues de tous, de récupération d'une date particulièrement investie de sacralité dans le cadre de la religion romaine traditionnelle, païenne. Et cela depuis le IIIe siècle seulement. Dans nos pays d'oc, la période qui précède Noël, les Avents, porte le nom de Lujabens, du latin ad ventus, ce qui est en train d'arriver. En latin, ça veut dire ce qui est advenu, mais il faut le comprendre au sens de ce qui est en train d'advenir, ce qui advient. Et ce sont les quatre semaines avant Noël, qui commence donc après le dernier dimanche après la Pentecôte et dure jusqu'à Noël. Alors, il faut savoir que dans le cadre du calendrier liturgique de l'Église catholique, lorsque Pâques est très précoce, fin mars, 50 jours après a lieu la fête de Pentecôte, et qui est donc elle aussi très précoce. Et dans ce cas, ça dégage une plage de temps jusqu'aux Avents, qui est suivie d'une période d'un très grand nombre de dimanches dits après la Pentecôte. Et lorsque Pâques est très précoce, le dernier dimanche après la Pentecôte est celui où, dans l'Église catholique, on lit des textes de l'Évangile ou de l'Apocalypse, qui sont des textes dans lesquels le Christ et Saint Jean, dans son Apocalypse, décrivent ce que sera la fin des temps, le jugement dernier, et les signes annonciateurs. Ça fait donc, de cette période-là, une période qui prélude par les présages qu'elle peut contenir à ce que sera peut-être un jour la fin des temps et le jugement dernier. Du reste, dans nos régions en langue occitane, le mois de décembre porte un nom, mais c'est surtout vrai en Gascogne, entre la Garonne et les Pyrénées. Le mois de décembre porte le nom de Mes Negre, le mois noir, c'est-à-dire le mois sombre, ce qui ne fait que traduire et reprendre, assez curieusement, le gaulois Dubnos Manos, Dubnos veut dire noir, Manos ou Manis plutôt veut dire moi, et qui se conserve en breton moderne sous la forme de Douman, le mois noir, qui désigne décembre. Donc, ce mois de décembre, dans l'esprit des populations anciennes, était vu comme un mois sombre, un mois sans soleil. C'était le premier mois de l'hiver, sombre et glacé. Ce qui n'est pas sans m'évoquer un vers d'un troubadour du XIIe siècle, Bertrand de Born, si je ne me trompe, dans son plan de la mort del sube rey inglés, c'est-à-dire son lamento sur la mort du jeune roi anglais, lequel était le fils aîné d'Henri de Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine. Et Bertrand de Born nous dit que l'annonce de cette mort a rendu le monde escur, tense et ténébrous, plein de tristou, obscur, pâle et ténébreux, plein de tristesse. Du reste, alors c'est là que l'on devient un peu... On me reproche d'être trop moncuquois, mais enfin. À Moncuq, nous avons un quartier qui porte le nom de Barri Escur, le quartier obscur. Il y a aux environs de Moncuq une hauteur, un pêche sur l'Écosse, qui porte le nom de Pêche Nègre et Mont Noir, près de Chari, qui portait le nom de Malmoun Loupetit, le petit mauvais mont. On aurait donc là une vision du site de Montcu comme étant un mois particulièrement empreint de l'angoisse qui naît de la descente du soleil dans le ciel à partir de la Saint-Jean d'été, mais surtout à partir de l'équinoxe d'automne, jusque vers le solstice d'hiver. Pour les populations anciennes, décembre était marqué par l'accentuation de la descente de la course du soleil dans le ciel vers ce que l'on appelle le pôle involutif de l'année, le nadir du monde, lorsque le soleil est au plus bas dans le ciel et les jours les plus courts. D'où la naissance d'une angoisse générale dans les populations anciennes, alors du paléolithique, disons, et même du néolithique, qui voyait les jours se raccourcir, les nuits allonger, et qui pouvait craindre, pendant la nuit la plus longue, que le soleil ne renaisse pas au matin. D'où la naissance de rites destinés à favoriser cette renaissance du soleil, à accompagner le soleil dans les passages dangereux des nuits du solstice d'hiver, pour nous la nuit du 24 au 25 décembre, la nuit de Noël. Alors là, on est dans un compute du temps, une façon de compter le temps, qui doit quand même faire référence, au-delà des avants liturgiques de la chrétienté, à l'ancien calendrier romain, du 17-18 décembre au 24 décembre, les 6 jours, juste avant que le soleil ne renaisse, étaient les jours que l'on appelait les brumalia, les jours sombres, silencieux, gris, froids. Ceux d'une déesse que l'on appelait Angerona, celle des portes étroites, des passages dangereux. Dangereux pour le soleil qui pourrait ne pas renaître au sortir de la nuit la plus longue. Et c'est aussi une période qui est à l'opposé donc, du solstice d'été, des 6 jours du solstice d'été. Cette vision des choses est particulièrement nette dans nos pays d'oc. Et je pense par exemple à un phénomène du folklore de nos régions qui est assez bien connu. On sait que pour les populations anciennes, la descente du soleil dans le ciel, c'est le fait que sa course soit la plus basse vers l'horizon, avait fait naître l'idée que le soleil passait l'hiver dans des pays au printemps éternel. Alors pour les Grecs anciens, bizarrement, c'était les pays d'Hyperborée, les pays au-delà du vent du nord, où ils voyaient des jardins de paradis éternel. Dans nos régions, ces jardins de paradis éternel étaient vus par les populations anciennes du bassin aquitain comme se trouvant au sommet enneigé et inaccessible des Pyrénées. On voyait dans ces sommets blancs de lumière des jardins de paradis au printemps éternel et à l'été éternel. Or, ces sommets enneigés, vus comme des jardins de paradis, portent toujours le nom en occitan de Tuc. Tucos, qui est la forme évoluée de Cuc, qui a donné ensuite Montcuc. Alors, très curieusement, il y a quelque chose d'encore plus étrange. C'est que, il faut savoir que le bourg castral de Montcuc est né, dans la légende, vers l'année du millénaire de Rome, et autour de ce qui est de nos jours la butte rocheuse portant la tour, mais surtout de la place au pied de celle-ci qu'on appelle l'Upatus, ou la place del Pla, du latin planum, qui, au Moyen-Âge, désigne aussi une clairière sacrée au milieu de bois sacrés. Or, très étrangement, et je tiens ça du maire de Saint-Béat que j'ai eu au téléphone, à Saint-Béat, au coude de la Garonne, la Garonne passe entre deux massifs. À l'est, le massif de la Cise, à l'ouest, le Maille de Cric. Et la légende veut que Gargantua, le géant solaire, ait pris appui sur le massif de la Cise pour franchir la Garonne et poser son autre pied sur le Maille de Cric. Or, il aurait posé son pied sur le massif de la Cise dans une clairière au milieu des châtaigniers, et cette clairière porte le nom, tenez-vous bien, de Plane de Montcuc, c'est-à-dire littéralement en bon latin médiéval, la clairière de Montcuc. Ça ferait donc du bourg de Montcuc un site en lien avec, non pas Gargantua, mais avec, la course du soleil dans le ciel. Ce serait en quelque sorte le noyau fondateur de Montcuc, serait comme une espèce de projection sur la terre de ce qu'est la voûte céleste. Et ça nous amène à comprendre un point que je voulais développer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire l'imbrication, si vous voulez, de l'espace, du calendrier liturgique, du calendrier agraire, avec l'organisation de l'espace dans un village, un lieu donné. C'est une période de l'année, cette période des avant et des six derniers jours avant Noël, qui est celle qui a inspiré à un troubadour du XIIe siècle, Rainbow ou Rainbow, comme vous voudrez, prince d'Orange sur le Rhône, Prince d'Aurengo, ancêtre de l'actuelle famille royale des Pays-Bas, son fameux poème Ar resplan la flus emberso, per trencans rangs et per tertres, cals flus mas gel et cung lapis, que cots et destregne et trenco. Il y a une excellente interprétation de ce poème par Gérard Zucchetto de Carcassonne. Voici que s'épanouit la fleur contraire, fleur de gel et de givre, qui cotte et destraigne et trinque, qui cuit, qui coupe, qui tranche et qui destraigne, qui contraint. Après, je ne me souviens plus du reste du texte. Nous avons également d'un troubadour de Montcuq, Bernard Arnald, un autre poème dont le premier vers est connu, Ar can li rosier sun sen fludi granos, maintenant que les rosiers sont sans fleurs ni fruits. Donc, qui évoque également cette saison hivernale, celle de décembre, qui est donc un mois sans soleil, mais aussi un mois sans fleurs ni fruits. Alors, ce mois de décembre, avec les avants, est scandé dans notre calendrier, dans la tradition de l'Europe chrétienne et autre que chrétienne, par des fêtes de la lumière. Alors, vous avez le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, dont Marie conçue sans péché, à Lyon, qui est marquée par la fête des Lumières. Vous avez également d'autres, évidemment, la Sainte Luce, avec le proverbe afférent « Per Sainte Luce, luitsurs creisun d'une salte de piuso ». Pour la Sainte Luce, les jours croissent d'un saut de puce. Il y a, avant le 8 décembre, un autre proverbe occitan et carcinol, donc du Quercy, Per nostro dono dels avens, plezzo e ben, pour Notre-Dame des Avants, 8 décembre, Immaculée Conception, pluie et vent. Alors, le proverbe essentiel, évidemment, celui qui attire le plus l'attention, qui la retient, c'est celui sur la Sainte Luce, le 13 décembre. Sainte Luce, sainte martyr de Syracuse, connue par la légende dorée de Jacques de Voragine, est une sainte qui est patronne de la virginité, mais qui connaît le martyre par le fer et par le feu. Ce qui n'est pas sans rejoindre ce qu'était l'affectation du bar Riescure à Montcuq, qui était un quartier d'artisans, de métiers du fer et du feu, de forgerons, de potiers et autres. Il y a une autre fête qui marque bien également décembre, de son caractère de mois sombre, scandé de fête de la lumière, c'est la fête juive de Hanouka, pendant laquelle on allume un chandelier à 9 branches, la branche centrale servant de réserve pour allumer les autres, et on allume une branche après l'autre d'un jour à l'autre, ou on allume d'abord les 8 branches, puis on va en diminuant d'un jour à l'autre. Alors, cette fête de Hanouka a été introduite dans la liturgie de la synagogue, dans la liturgie familiale plus exactement, en commémoration de la purification et de la redédicace du temple après le retour de l'exil à Babylone, puis après la profanation du temple vers 200 et des poussières avant notre ère par un des successeurs d'Alexandre le Grand, Antiochos IV Épiphane. On retrouve le même motif à Cordoue, lors de la reconquête par les chrétiens, où on aurait retrouvé une lampe toujours allumée dans une voûte depuis 7 ou 8 siècles, depuis la conquête musulmane de l'Andalousie. C'est la fête du Cristo de la Luz. Et également en pays musulman, lorsque Saladin en 1187 a reconquis Jérusalem sur les croisés, on a cru avoir retrouvé une lampe cachée, toujours allumée, depuis plus d'un siècle, dans les ruines de la mosquée Al-Aqsa. Donc on a là, avec décembre, un thème général qui est celui de la lumière jaillissant hors des ténèbres, la lumière née des ténèbres. Ce qui n'est pas sans évoquer des textes sacrés. Alors, il y a plusieurs textes. Il y a évidemment le motif paléo-asiatique, de l'Asie ancienne, du yang et du ying, le blanc qui naît du noir et le noir qui naît du blanc, le mythe soufi de la nuit lumineuse, une nuit positive, qui est celle de l'inconnaissance divine, d'où naît l'or de la sagesse connaissance de Dieu, que l'on retrouve sur les décors de certaines portes d'entrée des maisons musulmanes, un champ noir brillant qui porte en son centre un motif d'or brillant. Et enfin l'évangile de Saint Jean sur le verbe divin, le logos, au commencement était le verbe, le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était en Dieu, le Verbe était Dieu, il était la lumière, et les ténèbres n'ont pu avoir raison de la lumière. Bien. Ce motif donc de la lumière qui naît des ténèbres n'est pas simplement un mythe, un motif, disons, chrétien, juif ou musulman. On le connaît depuis au moins le paléolithique par les études qui ont été faites sur les peintures des grottes ornées, où apparaissent deux couleurs fondamentales, le blanc et le noir. Et ce motif, nous le retrouvons donc à travers nos proverbes de décembre, notamment celui sur la Sainte Luce, qui n'est pas sans poser des problèmes. Pourquoi, mythiquement, les jours ne recommencent-ils de croître qu'à partir de la Sainte Luce, le 13 décembre, alors qu'en fait ce n'est qu'à partir du 20-21 décembre, et anciennement du 24 ou 25 décembre. C'est parce que, du fait de la réforme du calendrier romain, Jules César avait fait passer la religion romaine d'un calendrier archaïque lunaire à date mobile à un calendrier solaire à date fixe. Et ce calendrier de Jules César, au XVIe siècle, connaissait un retard d'environ 11 jours par rapport au calendrier astronomique. C'est-à-dire que la Sainte Luce, vers 1580, tombait en fait ce qui était, astronomiquement parlant, le 24 décembre. Le pape de l'époque a supprimé 11 jours et a rétabli un calendrier adéquat, correct, ce qui fait que le sortilège liturgique du 24 et 25 décembre s'est retrouvé conforme au calendrier astronomique. Mais il en est resté ce proverbe qui est toujours connu par certains paysans du Quercy, comme quoi les jours recommencent de croître à la Sainte Luce, alors qu'ils ne le font qu'à partir de la Noël. Alors évidemment, on connaît le proverbe « Per Nadal, Luitzurs, Creisun, d'une paix d'égal, Per Santumas, del abuco al nas, per San Silvestre del pas d'une mestre, pel reis del pas d'une bouille. » Alors, pour la Noël, les jours croissent du pas d'un coq, pour la Saint Thomas, de la bouche au nez, pour la Saint Silvestre, d'un pas d'homme, d'un pas de maître, et pour les rois, d'un pas de bœuf. C'est donc ainsi que nos ancêtres voyaient ces 12 jours de Noël au roi, mais auparavant, ces proverbes s'appliquaient à la période. La période, c'était toujours la même, mais bon, du fait de l'erreur du calendrier, il en est resté quelque chose chez certaines personnes qui continuent d'observer le temps des 12 jours de la Sainte Luce à Noël, pour prévoir le temps qu'il fera l'année suivante. Alors, Sainte Luce, par son martyr et par son nom, est une sainte de la lumière. C'est une sainte des sources, c'est une sainte de la vision, de la lumière en tant que science-sagesse. Et assez curieusement, si son nom vient du latin lux, on peut le rapprocher aussi du mot latin lucus, qui désigne des bois sacrés. C'est pas sans intérêt en Quercy Blanc, notamment à Montcuq, ou à Saint-Cyprien, à côté du château de Marcellac, existe toujours un bosque del luc, le luc c'est le bois sacré, un bois du bois sacré, près d'un pêche argan, c'est-à-dire du gaulois argantos, le brillant de lumière. Nous aurions donc là, avec la toponymie autour de Saint-Cyprien, autour du château de Marcillac, une référence possible à des rites celtiques autour de bois sacré et de monts porteurs de lumière. Ce qui nous amène à quelque chose d'encore plus prégnant, c'est dans le recueil des contes de Gascogne de Jean-François Bladier, ce qu'il a appelé la messe des Mietzonait del Loups, la messe de minuit des loups. Alors Jean-François Bladier nous raconte que dans la forêt de Boucon, entre Toulouse et l'île Jourdain, selon les légendes, se rassemblaient au sein d'une clairière tous les loups de l'Aquitaine qui assistaient à une messe célébrée par un chapelain loup. Messe centrée sur, évidemment, la consécration et l'élévation, et nous dit Jean-François Bladier, qui tenait ça de paysan de Gascogne, lors de l'élévation de l'hostie après la consécration, on voyait apparaître le soleil nouveau renaissant au-dessus de la tête du chapelain loup. Qu'est-ce qu'étaient ces loups qui se réunissaient dans les forêts de Gascogne, dans la forêt de Boucon? En fait, on y a vu des sociétés secrètes de chamans qui célébraient des rites de renaissance du soleil dans la nuit du solstice d'hiver, nuit pour nous de Noël est source d'une légende qui a été christianisée sous la forme de la messe de minuit des loups et d'une organisation d'un clergé de loups avec des évêques, un pape, etc., etc. Ce qui ne serait pas sans évoquer certains dictons sur l'organisation du catharisme au Moyen-Âge dans nos régions. Alors, cela a également d'autres références dans le pays de Montcuq, notamment à Saint-Donès, avec le pêche de Belliqui, où le soleil est appelé un loup-beau, encore au XVIe siècle. Belliqui, où un château aujourd'hui détruit aurait caché un trésor de chenet en or. Belliqui, donc, qui évoque le loup de Belosloug, c'est-à-dire le soleil, lequel n'est autre que Bélénos, l'Apollon solaire, maître de sources ombragées de noisetiers, où au solstice d'hiver, pendant la messe de minuit, les menhirs viennent se plonger, baptême de régénérescence, menhirs qui cachent des trésors inaccessibles aux vivants. Or, il se trouve qu'à Montcuq, nous avons des sources des noisetiers, la Baïse au nord du bourg et au sud de la Bella. Un bari des cantals, c'est-à-dire des cantalos, des piliers votifs, donc des espèces de... on pourrait assimiler à des menhirs. Nous avons donc à Montcuq, à travers la toponymie ancienne, la conservation, comment dirais-je, figée sous forme enkystée de fossiles toujours vivants, de fossiles toponymiques, la conservation de la mémoire de mythes oubliés, de mythes tournant autour du solstice d'hiver et des épreuves que doit subir le soleil pour renaître de la nuit éternelle au matin du jour de Noël. Et ces rites et ces mythes se retrouvent dans les traditions des avants, notamment alors, tout ce qui tourne autour de la décoration et des traditions culinaires et autres de nos maisons et de nos églises pendant les 4 semaines des avants en vue de Noël. Donc ce serait en quelque sorte comment faire de décembre, mois sans fleurs ni fruits, mois sans lumière, mois sans soleil, un mois de réjouissance à travers les préparations liturgiques et les préparations, les festivités culinaires. En Pays d'Oc, qui sont d'esprit très franciscain, la crèche, la grépio, qui a été répandue à partir de l'innovation de Saint-François d'Assise, donnait naissance à des espèces de concours entre paroisses et entre dames sacristines pour la création de crèches, toutes plus somptueuses les unes que les autres, et évoquant des paysages de Judée. Certains contes évoquent le passage en Quercy de la Sainte Famille. On retrouve à travers le motif de la crèche celui de la grotte, d'un dieu sauveur qui naît, qui meurt et qui renaît au solstice d'hiver dans une grotte. Ce mythe de Mitra, de Dionysos. D'autres légendes expliquent pourquoi le bœuf et l'âne. Alors Saint Joseph, de descendance davidique, serait venu faire enregistrer sa famille à Bethléem en apportant un bœuf pour le sacrifice au temple et Marie chevauchant un âne, d'où le bœuf et l'âne dans la crèche. Nos sacristines essayaient de recréer, notamment c'était le cas à Saint-Hilaire, des paysages imaginaires de la Judée ancienne qui évoquaient aussi ceux de la Provence. N'oubliez pas que le Quercy, c'est la Provence du pauvre. Il faudrait pour cela lire et relire Mistral dans ses Memories Racuntes sur les traditions de Noël. Roumanie, le vieux Quercy du chanoine Sol, les Contes et Gascugno de Jean-François Bladet, les Contes et Proverbes du pays de Rocamadour par l'abbé Lafont, qui a été curé de Montcuq, les Contes mystérieux du Quercy par Michel Jacquet. On pourrait également lire les recueils de travaux ethnographiques aux éditions de la Talbera, publiés sur le canton de Lozère et sur celui de Salvagnac, dans la vallée du Tescou, aux confins du Tarn-et-Garonne et de l'Haute-Garonne. Alors évidemment, qui dit Noël dit chant de Noël, dit aussi recette de Noël. Alors, parmi les chants de Noël, le chanoine Sol, dans son vieux Quercy, en avait recueilli un certain nombre. C'est un occitan assez pauvre, c'est un occitan très francisé, qui n'est pas très intéressant pour l'occitaniste, mais je vais vous en lire quelques passages. Un Noël patois qu'il avait recueilli, je pense, dans les villages du sud du Quercy. « L'utsu in epastre sumbelia, bodin sacabano tutsulet, desio che sumbelia, bon entendet un obuz. Un obuz che crida, bon lebote pasturelet. » Un jeune berger sommeillait tout seul dans sa cabane. Pendant son sommeil, il entendit une voix, une voix qui criait « Lève-toi, pastourelle ». Le chanoine au sol nous ajoute qu'à Creys, on chantait à la messe de minuit « De rebelliabus pastourelle, quittas vostre troupel, anen anen a Bethléen en diligencio, li trubares pastus, ludiu damu, ansels mainatsabus, ianiren passanbus, pastres ianiren pas, am lus gran ni lui coupables. Diuai momai lubrabezen, lubrabemunde, faudrait-il dire, que l'or, l'aure et l'arzen. » Alors, il faudrait traduire ça. Réveillez-vous, berger, quittez votre troupeau, allons à Bethléem en diligence, en rapidité, il veut dire rapidement. Vous y trouverez berger, le dieu d'amour, ange, dépêchez-vous, nous n'irons pas sans vous. Berger, nous n'irons pas avec les grands, ni avec les fautifs, les coupables, les pécheurs. Dieu aime mieux les braves gens que l'or et l'argent. Et ainsi de suite. Bon, on pourrait continuer ainsi, à n'en plus finir. La nuit de Noël était marquée dans nos régions d'Oc, on le sait par Mistral, mais on le sait par toute la tradition pour touristes sur la Provence, le fameux les 13 desserts. Il faut savoir que ce repas des 13 desserts était connu en Quercy, d'après le chanoine au sol, dans nos régions où on servait le soir de Noël, quelques heures avant d'aller à la messe de minuit, un repas assez copieux mais composé de fruits secs, dattes, figues, abricots, pruneaux, amandes, noix, noisettes, de gâteaux et de vin. Donc, si vous voulez, la tradition du repas des 13 desserts n'est pas strictement provençale. Elle était certainement répandue dans tous les pays d'Oc, dont le paysage était, comment dirais-je, le produit de la nature, du sol, des conditions naturelles, des plateaux calcaires du Quercy, par exemple, qui donnent au Quercy des paysages de type provençaux ou toscan. L'autre grande tradition, c'est celle de la bûche de Noël, qui doit être, et c'est vrai en Quercy comme en Provence, c'est une bûche d'arbres fruitiers, des branches d'arbres fruitiers, une souche, que l'on met à brûler dans la cheminée le soir de Noël, et où elle doit tenir en se consumant petit à petit, jusqu'au moins au premier de l'an, voire jusqu'au roi. Alors cette branche, cette souche de fruitier, que l'on appelait le cachofio, ou le cachofiu, ou le cachofioc, c'est-à-dire le cherche-feu. Le verbe cacha, ça veut dire chercher, c'est pas caché. Caché, c'est amaga. Alors cette tradition sur la bûche de Noël, qui est une bûche de fruitier, on la connaît en Provence, on la connaît aussi en Quercy. Elle est à mettre en relation avec les rites de magie blanche, de magie religieuse, de magie d'imitation, qui tournent autour des arbres fruitiers. Dans la nuit de Noël, il fallait frapper les troncs d'arbres fruitiers avec des pierres que l'on ensuite on suspendait aux branches maîtresses. Alors pourquoi des pierres? Pourquoi cette suspension à des branches maîtresses? Ça évoquerait certaines choses, certains vieux mythes et rites que l'on connaît dans la Grèce ancienne sur la suspension de poupées aux branches des arbres fruitiers et qui étaient agitées par le vent et qui étaient destinées à assurer l'abondance de la récolte. Alors, dans nos régions, ce rite devait être célébré dans la nuit de Noël. Or, c'est précisément la nuit où, dans les traditions de toute l'ancienne Aquitaine romaine, de la Loire aux Pyrénées, pendant la messe de minuit, notamment pendant les 12 coups de minuit, les menhirs quittent leur place pour aller se plonger dans des sources guérisseuses, qui sont des sources de noisetiers, Aulagnès en occitan, ou Baixos, anciennes sources de Bélénos, le dieu solaire gaulois, et sources qui sont en quelque sorte, ce sont des sources en rapport à la fois avec la messe de minuit, la nuit du solstice, les menhirs, donc il y a une espèce de triade là qui apparaît. Mal comprise, on pense que ces menhirs font trois tours sur eux-mêmes, ils sortent de leur siège, vont se plonger dans des sources, et pendant le temps où ils quittent leur siège, on a juste le temps des 12 coups de minuit pour s'emparer des trésors que ces menhirs cachent. L'autre fait marquant de la fin des avants et du passage vers Noël, outre la messe de minuit, ce sont les préparations culinaires évidemment. Alors, nous avions à Montcuq une tradition de messe de minuit solennelle et glorieuse au temps de l'abbé Montjoie et de ses prédécesseurs, au sein d'un harmonium qui avait des allures d'orgue et de belles voix de chorale, notamment celle de Clémence Gras, dont le minuit chrétien faisait son triomphe. Et nous avons ensuite d'autres choses qui sont en rapport avec Noël, les 12 jours, c'est la préparation de liqueurs, alors liqueurs de prunelle, liqueurs de genièvre, des recettes de tartes, de bûches et autres. Et quel est le gâteau que l'on consommait à ce moment-là? C'était la coque aux fruits confits, faite maison par la maîtresse de famille. Il n'y a pas longtemps, sur le marché de Montcuq, j'ai rencontré une personne de Saint-Cyprien qui fait sa coque de Noël elle-même parce qu'elle préfère ça aux coques à la crème au beurre qu'elle trouve détestable. Vous savez ce que je vous disais il n'y a pas longtemps? La cuisine du Quercy est une cuisine sans beurre et sans reproche. En Provence, on mangeait des escargots à l'aioli, des nougats d'amande, des gâteaux à l'huile, les bugnettas catalanes, les neulos occitanes, du vin cuit. Alors Mistral nous parle d'un pain de Noël, un pain spécial qu'on appelait le calendau, qui était cuit pour le jour de Noël et qui devait être cuit en provision suffisante pour durer 12 jours. Il devait être un peu dur à la fin. On l'a porté sur la table, on décorait ce pain de petits houx, en occitan c'est Berthe Bouissette. C'est une espèce de houx à feuilles pointues, lancéolées, de petite taille, qui est garni de boules rouges, très toxique. La racine du petit houx est un très bon remède des problèmes de circulatoires veineux. Le reste de la plante est plutôt toxique, quoi qu'on mange les jeunes pousses comme des asperges. On le décorait donc de petits houx. On apportait également sur la table les fameuses coupelles de blé de la Sainte-Barbe, les Osiris végétales de l'Antiquité. Et cela se rapporte à ce fameux proverbe du Quercy qui nous dit que « Per Nadal meitat granier ». Pour Noël, on a mangé la moitié des récoltes en céréales. Donc, on accomplit des rites destinés à provoquer une surabondance de récoltes céréales de l'année suivante. Autre rite provençal, c'est celui des « tres candelos », trois chandelles, trois bougies allumées sur la table de la cuisine, devant le feu. On apporte également des coupes pleines d'arbouges, les fraises de Noël. Les arbousiers du Quercy blanc, les arbousiers de Montcuq, sont des arbousiers dits occidentaux, ils supportent le calcaire. Alors qu'en Corse, l'arbousier, c'est l'arbousier oriental, qui exige des terres acides, des sols cristallins. Alors évidemment, il y avait des recettes de bûches, des recettes de la salade d'orange du lendemain de Noël, qui me vient du côté de mon père, la bûche à la façon de ma mère, qui est très simple à faire et très délicieuse. Il y a une recette plus moderne, plus récente, qui est particulièrement recommandée pour les jours de grand froid et de neige, c'est la tarte du trappeur. Mais alors là, ça, je la déconseille aux gens souffrant d'hyperlipidémie, de cholestérol et compagnie. Il y avait aussi la coque des rois, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y avait évidemment des liqueurs de Noël dont certains herboristes et par ailleurs historiennes de Montcuq se réservent le secret, les gardant pour leurs chers neveux et pour les gens que le jour de Noël ils invitent à venir déguster ces fameuses liqueurs. C'était donc François Nardou au studio de Boulve pour l'émission de Noël, jour et période des 12 jours que je vous souhaite de passer le plus agréablement possible. Pour cela, plongez-vous, replongez-vous dans l'imaginaire occitan, dans les liqueurs de Noël, dans les coques, les bûches, les gâteaux, les huîtres et tout ce que vous pourrez imaginer, en évitant évidemment ce qui risque de vous arriver, une belle crise de foi, et de foi avec un E, pas sans E. Allez, à la prochaine fois, l'année prochaine, nous serons donc en 2022. Au revoir.